Vous écoutez France Culture.
Sur le bateau d'Ulysse, aujourd'hui, sauter parmi les dauphins, avec François-Bernard Mache. Les Grecs ont une sensibilité aiguë aux images et nous accédons à leur imaginaire en fréquentant leurs mythes. Les liens entre musique et mythe ont été souvent analysés et dans la mesure où les œuvres musicales sont en partie immergées dans le mythe, il fallait un compositeur pour les redéployer. Mais si j'invite aujourd'hui François-Bernard Mache, c'est que ce compositeur est aussi un helléniste. Vous avez, François-Bernard Mache, enseigné le grec pendant 12 ans à Louis le Grand. Les mythes grecs, la poésie grecque sont à la source de votre musique. Et je pense notamment à des pièces comme Danaé, Andromède, Cassiopée, Cassandra. Et certaines de vos œuvres font revenir le grec ancien à nos oreilles. Et puis, vous avez été élu en 2002 à l'Académie des Beaux-Arts au fauteuil de Yannis Xenakis. Et dans votre discours de réception, vous avez fait état de votre rapport à la Grèce antique et des sources grecques qui ont compté pour vous et pour Xenakis.
Tout à fait, tout à fait.
Votre musique est donc vraiment travaillée par la phonétique et par la rythmique grecque.
Alors, par la Grèce en général, oui. La phonétique et la rythmique, c'est un aspect plus particulier. Dans ce que vous avez cité, il y a des choses d'une portée beaucoup plus vaste, comme le mythe. Mais il est vrai que je me suis intéressé à de très nombreux aspects de la Grèce, y compris la langue, à partir d'une année déjà très lointaine, 1954, où je suis brusquement passé de l'état d'étudiant en grec ancien à la découverte que ce grec était encore une langue vivante.
Et le grec ancien, c'est une langue à ton, donc on entend le grec dans certaines langues encore aujourd'hui, comme les langues baltiques, par exemple.
C'est vrai que c'était une langue à ton et qu'on a un peu de mal à comprendre exactement comment elle devait sonner, mais il y a probablement plus de permanence que de différence. Si on regarde le vocabulaire, par exemple, du grec, on est frappé de voir qu'il y a une infinité de noms essentiels qui sont restés les mêmes. Le grec, aujourd'hui comme autrefois, utilise le même nom pour désigner la lumière, le soleil, la mer, le ciel, le mensonge, le chagrin, la vérité, la gloire, le sang, on pourrait ainsi énumérer à l'infini des notions essentielles, la chance, la mort, la vie, tout cela se dit de la même manière et parfois des phrases entières sont identiques. Et lorsque j'ai découvert ça, ça a été un choc considérable qui a déclenché une réflexion très prolongée.
Alors, par exemple, dans les pays baltes, dans la région de l'ancien empire byzantin, il y a aussi des rythmes qui sont probablement qui viennent de très loin. Vous avez parlé d'un rythme turc qui signifie boiteux. Hein.
Oui, les musicologues ont désigné à la suite de Brailoy le rythme mélangeant des valeurs ternaires et binaires sous le terme d'aksak, qui est un mot turc qui veut dire boiteux. Mais il se trouve que ce type de rythme, qu'on appelle aussi balkanique quelquefois, ne se rencontre que sur l'aire géographique qui correspondait autrefois à l'Empire byzantin. Et que les Turcs, proprement dit, dans leur berceau asiatique, ne le connaissent pas. Il y a donc pas mal de raisons de penser que le rythme grec national, aujourd'hui, qui est le Kalamatianos, un rythme à 7 temps, est d'origine antique et effectivement il correspond à un vers antique repéré dans les textes.
Alors une œuvre comme Danaé, créée à Persépolis dans les ruines du palais de Darius, était directement chantée en grec?
Non, il se trouve que c'est le titre que j'ai donné après coup à une œuvre où il y a une langue imaginaire et il y a des onomatopées, mais il n'y a pas de texte chanté justement là. C'est simplement l'esprit du mythe grec qui est réincarné musicalement.
Et vous avez traduit aussi le grec moderne. Hein.
J'ai été en effet le premier traducteur en français d'Elitis, quelques années avant qu'il ait le prix Nobel, en particulier avec deux recueils, un qui s'appelle Exicamiati Psychiaton Urano, c'est-à-dire 6 plus 1 remords pour le ciel, et également un petit recueil qui s'appelle Prosonatolismi, orientation.
Alors, François Bernard Mache, vous avez publié chez Klinzig en 1983 « Musique, mythe, nature ou les dauphins d'Arion ». C'est un livre qui nous fait rencontrer des figures comme Arion, mais aussi Dionysos, Orphée, Ino, Apollon, Boutès, et qui nous rappelle qu'avec les Grecs, on est sans cesse sur la mer. Il y a la mer et ses naufrages, l'urgence d'un savoir pour s'en sortir et pour repartir. Et au cœur des mythes que vous passez en revue, il y a un plongeon dans la mer et la magie de la musique, toujours.
Alors, c'est effectivement, les mythologues, depuis plus d'un siècle, ont souvent observé que les mythes de tous les pays recouvraient souvent une imagerie commune. Mais ce mythe du plongeon, bien connu à travers ses avatars, notamment le plongeon chrétien qui est le baptême, représente le passage radical d'une existence ancienne vers une sorte de renaissance à la suite d'un plongeon initiatique. Mais cette imagerie n'était pas explicitement reliée à la musique. Et personnellement, c'est à travers l'analyse d'un mythe comme celui d'Arion que j'ai montré que son application principale pouvait être musicale. Pourquoi ? Parce que Arion est un musicien, un citharède, qui revient d'une tournée extrêmement fructueuse qu'il a faite dans la Grande Grèce de l'époque, c'est-à-dire la Sicile. L'époque, c'est le 7e, 6e siècle avant notre ère, car c'est un personnage au départ historique, qui est devenu un héros mythique. Et il est ramené par un équipage un peu louche jusque dans la région où il veut se rendre, à Corinthe, et il est agressé par les pirates qui veulent s'emparer de ses richesses. Et ce navire de pirate a entendu parler de sa grande réputation, donc il obtient, avant de mourir, de chanter son propre chant funèbre. Il monte donc à la proue du navire avec sa cithare, il chante merveilleusement bien. Les pirates apprécient le concert, mais continuent à avoir de mauvaises intentions à son égard. Mais à l'écoute de ce chant, sont accourus autour du bateau des dauphins. Et les dauphins sont les amis d'Apollon, le dieu de la musique. Et Arion saute volontairement dans la mer. Il est recueilli par les dauphins qui l'emmènent sur leur dos jusqu'à Corinthe, où il arrive avant les pirates. Et ensuite, lorsque ceux-ci se présentent aux tyrans de Corinthe, Périandre, ils sont stupéfaits de voir que le récit fictif qu'ils présentent n'est pas pris au sérieux et que Arion est bien sain et sauf.
Souvent dans les mythes, les personnages sont interchangeables et aussi les animaux. Il y a un autre mythe où les dauphins interviennent, mais là, c'est une métamorphose.
Oui, alors là, les dauphins sont les animaux d'Apollon, donc qui sauvent un musicien.
Il y a un jeu de mots sur le mot delphes, dauphin et matrice.
Dauphin, c'est pour la langue grecque, c'est proche de delphes, qui veut dire la matrice. Et ce plongeon dans la mer, alors il peut être relu à la lumière de l'imaginaire psychanalytique. Je préfère dire imaginaire parce que je ne pense pas que la psychanalyse soit une science, mais elle est une imagerie extrêmement riche et suggestive. Et je pense que le plongeon dans la mer est très bien illustré par des psychanalystes comme Paul Diehl, comme représentant la plongée dans l'inconscient qui est nécessaire pour une résurgence musicale de la musique. Donc, il y a un autre mythe, en effet, où c'est Dionysos lui-même, un des deux dieux de la musique, avec Apollon, qui est fait prisonnier par des pirates, mais lui s'en sort par la magie, il fait retentir des instruments invisibles et fait pousser du lierre qui paralyse les rames du bateau et les voiles. Et les pirates sont terrorisés et c'est eux qui se jettent à la mer et qui sont transformés en dauphins. Et alors, c'est très intéressant de voir comment les rôles sont quelquefois opposés, mais l'imagerie est analogue. et comment le mythe est une espèce d'organisation d'une image fondamentale selon laquelle la musique sert à relier le conscient et l'inconscient en prenant le risque de s'être plongé dans l'inconscient.
Alors on retrouve aussi le chant sur un navire avec le bateau Argo, Orphée qui chante, et le chant des sirènes, et Orphée qui réussit à subjuguer en quelque sorte les sirènes pour éviter l'écueil.
Oui, c'est ça. J'ai rapproché ces mythes où la musique a un rôle qui n'est pas forcément de premier plan, mais qui est très souvent présent. Le mythe des sirènes, en effet, le mythe du navire Argo qui doit franchir les cinq Pléiades et sur lequel il y a le musicien par excellence qui est Orphée. Donc il s'agit toujours de la musique qui permet d'échapper à un danger mortel qui est celui probablement de rompre la communication entre conscient et inconscient.
Vous parliez là des cinq Pléiades qui sont deux rochers qu'il est difficile d'éviter, et il s'agit de se glisser entre ces deux rocs. Alors souvent les musiciens échouent à traverser cet écueil.
Oui, alors quel est le sens exact de ces cinq Pléiades? Il n'y a probablement pas un seul sens, mais de nombreux sens où deux masses antagonistes s'entrechoquent pour écraser celui qui ne saura pas les éviter. Et ce qui est très curieux, c'est de voir que ce mythe d'Orphée à son correspondant, j'ai découvert ça tout à fait par hasard, aux îles Marquises, donc à l'autre bout du monde, et à un endroit qui, historiquement, n'a certainement eu aucun contact avec la Grèce classique, ni archaïque. La même mythologie, la même imagerie a ressurgi en Polynésie pour raconter l'histoire d'un héros qui est, lui, emporté sur le dos d'un requin, et non pas d'un dauphin, mais la ressemblance de l'imagerie est considérable. Et ce qui le relie à Orphée aussi, c'est le fait qu'il perd sa femme Téphio, et descendu aux enfers, il a le droit de la ramener dans un panier à condition de ne pas ouvrir le panier avant d'être revenu. Quiconque connaît l'histoire d'Orphée et d'Eurydice ne peut pas manquer de trouver qu'elle a plus qu'une rencontre fortuite, mais qu'il y a une espèce de vérité issue probablement du psychisme humain de façon spontanée à deux endroits complètement isolés l'un de l'autre.
Alors les sirènes nous rappellent que toutes les musiques ne sont pas bonnes, qu'il y a des musiques qui tuent.
Il y a en effet des musiques qui tuent il y a un très mauvais auditeur qui s'appelle Boutès, qui est sur le navire Argo, et lui va être victime de sa naïveté, de sa mauvaise écoute. Alors est-ce que cette lecture aidé par la psychanalyse de mythes grecs antiques, correspond à quelque chose dont les Grecs étaient conscients? Alors là, c'est une question extrêmement difficile. Est-ce que la mythologie consiste à prendre conscience du mythe comme imagerie inconsciente? C'est l'hypothèse sur laquelle j'ai travaillé depuis des années, et je n'ai pas de preuves, évidemment, mais des indices. Il me semble que c'est quelque chose comme ça qui se produit, c'est-à-dire que la ressemblance entre les mythes de civilisations tout à fait étrangères historiquement les unes aux autres, cette ressemblance ne doit pas être expliquée dans le terme de diffusionnisme, de diffusion clandestine en quelque sorte et ancienne des mythes, mais en termes de résurgence spontanée. Alors ça nous entraîne très loin parce que je mets ça en parallèle avec la résurgence de certaines données musicales qui se rencontrent aussi dans des cultures n'ayant pas pu communiquer et où on trouve des traits musicaux qu'on peut assimiler peut-être à une imagerie d'ordre mythique parce que ce sont les mêmes solutions qui sont apparues dans des contextes culturels tout à fait différents.
Alors s'il y a des musiques qui tuent, il y a les musiques qui guérissent, et souvent dans la mythologie, le conflit entre ces musiques est mis en scène. Il y a l'opposition entre la flûte de Pan et la lyre d'Apollon, notamment, où le monde végétal de la flûte et puis le monde animal de la lyre.
C'est cela. Alors, une des interprétations plutôt qu'on donne de ces mythes, c'est d'en faire une espèce de garant solennel d'un ordre social. La flûte pastorale et la lyre des éleveurs, donc un sociologue voit là une espèce de sublimation de conflits d'ordre social. Mais Je crois qu'il n'y a jamais dans l'esprit mythique proprement dit autre chose qu'une mise en scène et non pas une leçon ni de morale ni de politique. C'est-à-dire que, comme dans les pays où la mythologie est vivante, je pense à Bali par exemple, l'incarnation du mal et l'incarnation du bien, ce sont des antagonistes, mais qui peuvent avoir des rôles interchangeables. La sorcière Rangda, par exemple, est menaçante, mais le baron qui la combat est lui-même un peu inquiétant. Et en tout cas, jamais l'un ne réussit à éliminer l'autre. Et la mythologie représente des conflits, mais elle ne les résout pas. Et ce qui m'intéresse dans la religion grecque, c'est justement que c'est une religion sans dogme et sans enseignement contraignant. Une religion qui met en scène les forces psychiques qu'elle incarne sous forme divine et elle montre comment ça se passe dans l'esprit et elle ne dit pas ce qu'il faut faire, sauf qu'il faut que l'homme reste à sa place et ne cherche pas à être un dieu.
Souvent, quand les musiques mauvaises l'emportent, elles entraînent les protagonistes vers une pétrification. Et c'est un thème extrêmement important dans ces nuits que vous passez en revue.
Alors, j'ai en effet trouvé dans la pétrification, j'ai proposé comme clé possible du lien entre ces mythes de la transformation en pierre et leur rôle musical. J'ai proposé de voir dans la musique le libérateur, donc appartenant à Dionysos en ce sens, puisque Dionysos c'est le libérateur, c'était son surnom. La pierre représente la mort de l'esprit qui se pétrifie, faute toujours de communication avec l'inconscient. Et la musique, au contraire, va refaire chanter la pierre. Il y a des mythes comme celui de la construction des murs de Mégare par Apollon et par Amphion qui sont directement liés à cette métamorphose, puisque Amphion construisait, lui, il y avait Amphion et Zétès, deux jumeaux. L'un travaillait comme tout le monde avec des brouettes ou des monte-charges, et l'autre jouait de la lyre, et il jouait si bien que les pierres volaient d'elles-mêmes à leur place pour construire le rempart. Et Apollon, d'ailleurs, l'aidait. Apollon, à un moment, pour pouvoir travailler, avait posé sa lyre sur la pierre et on montrait, jusqu'à l'époque historique, comment cette pierre était restée sonore, imprégnée par la lyre d'Apollon. Bon, des pierres sonores, il y en a à plusieurs endroits. Et dans toutes les cultures où on pratique le lithophone, on sait bien que la pierre peut sonner. On trouve ça aussi chez les Dogons, par exemple, le mythe de la pierre chantante.
Mais on sait aussi que dans l'Antiquité, des touristes allaient vers notamment des remparts pour écouter et capter ces pierres sonores.
Les remparts de Mégare. Et puis il y avait le mythe célèbre des statues de Mémnon, les fils de l'aurore, qui existent encore et qui, dans l'Antiquité, produisaient au lever du soleil une espèce de crissement dans lequel on reconnaissait le cri de Mémnon saluant sa mère, l'aurore.
Mais c'est une réalité d'ailleurs, non ?
Eh bien, sous Hadrien, on a fait une réparation et après, il n'a plus jamais chanté.
Mais François-Bernard Mach, ce motif de la pétrification, lui aussi est universel. Vous l'avez rencontré chez les Dogons, même, je crois, au Japon.
Au Japon, j'ai rencontré le mythe d'Arion. Au Japon, j'ai rencontré le mythe de Kiyotsune, qui est aussi un musicien qui se jette à l'eau à partir de son bateau.
Et dans les mythes qui se développent ainsi, est-ce qu'il y a toujours un choix entre, disons, une orientation apollinienne et une orientation dionysiaque ?
Bien, je ne suis pas persuadé. Ça, c'est une grande clé offerte par Nietzsche et qui est effectivement tout à fait intéressante. Bien sûr, les deux dieux n'appartiennent ni à la même généalogie, ni à la même musique, puisque Dionysos, c'est la toute-puissance de la passion et que Apollon, c'est la toute-puissance de l'harmonie. Mais je pense que dans l'esprit des Grecs, il n'y avait pas du tout de... C'était pas deux dieux en conflit, à chacun de défendre son domaine. Il faut être à la fois, si vous voulez, serein et harmonieux et en même temps passionné.
Oui, vous écrivez d'ailleurs dans votre livre qu'il s'agit de choisir entre deux accomplissements spirituels, la méditation ou la transe, mais que la méditation comme la transe peuvent porter vers des excès.
Ah oui, bien sûr. La peur de l'excès est une chose essentielle chez le grec ancien. Et il en a fait un proverbe même, Medenagan, éviter l'excès.
Par exemple, un personnage comme Panthée s'est jeté dans la transe et puis il a compris la violence qui se déchaînait et néanmoins il est victime de cet excès qui est lié à la transe.
Le culte, en effet, le culte de Dionysos, c'est une espèce, je dirais, d'excès contrôlé. Et la transe, dans les cérémonies de transe, c'est probablement ça aussi. C'est comment contrôler ce qui, par essence, est incontrôlable, c'est-à-dire le déchaînement, un déchaînement de pure passion. On sait que les ménades, les femmes qui pratiquaient le culte de Dionysos, brusquement, sous l'effet de l'ivresse, couraient en hurlant dans les montagnes, et qu'elle déchirait tous les êtres vivants rencontrés, en particulier des chevaux, avec des forces surhumaines, des forces décuplées par la passion mystique. Et c'est une religion, ça a beaucoup frappé Xenakis aussi, c'est une religion dont il reste des traces dans deux ou trois villages à la frontière de la Bulgarie et de la Grèce. C'est ce qu'on appelle les anasthénaria. Il y a des marches sur le feu et un certain nombre d'orgies au sens étymologique, c'est-à-dire déchaînement de passion, qui ont été sommairement christianisés et qui se pratiquent encore. C'est le culte du Dionysos Thrace qui persiste.
Il y a aussi un excès dans la méditation. Hein. Est-ce que ces conflits musicaux qui travaillent au cœur des mythes, est-ce qu'on les retrouve dans la musique savante aujourd'hui, par exemple ?
Malheureusement, pas tellement, parce que la musique savante, sauf exception, est beaucoup plus un art de communication sociale qu'un art sacré. Mais il faut tout de suite corriger ce que je viens de dire en remarquant qu'au XXe siècle, beaucoup des plus grands compositeurs ont justement essayé de retrouver cette dimension sacrée au moment où, je ne dirais pas les religions la perdaient, mais en tout cas les religions mettaient moins l'accent sur elles. Et c'est très vrai de Stravinsky, c'est très vrai de Varèse, c'est très vrai de Xenakis, qui, pour Varèse et Xenakis, c'était des agnostiques avoués. Pour Stravinsky, c'est un peu différent, c'était un homme qui a retrouvé l'orthodoxie de son enfance, mais quelle que soit l'appartenance déclarée, je crois que la dimension sacrée est très importante depuis Wagner, parce que, d'une certaine manière, le sens du sacré a été un peu évacué par beaucoup d'aspects religieux.
Pour vous, il ne suffit pas d'analyser le mythe et de comprendre comment la raison est mise en image. Il faut adhérer au mythe, il faut le réactualiser en soi.
C'est bien ça. C'est pourquoi je distingue soigneusement entre le mythe et la mythologie. La mythologie, c'est le système mis en forme au sein d'une société donnée, avec des cérémonies, des récits essentiellement. Mais ça n'est pas... La mythologie est un dérivé linguistique du mythe au sens d'une forme destinée à être vécue. Lorsqu'elle commence à être racontée, elle dérive vers sa dégradation en simple récit légendaire. Raconter une légende n'a rien à voir avec revivre un mythe. Du moins, c'en est une forme extrêmement dégradée. Et d'une certaine manière, la musique aujourd'hui est beaucoup plus vécue qu'elle n'est racontée. C'est très vrai non seulement de certaines musiques savantes, mais c'est absolument vrai de l'immense majorité des musiques qui font vibrer les foules et qui donnent naissance à des cérémonies d'exaltation mystique sans croyance, c'est-à-dire de pure exaltation dionysiaque. Une rave party, c'est une orgie dionysiaque, mais sans Dionysos.
Et donc, il y a une actualité des mythes. Prométhée, par exemple, est actuelle.
Alors Prométhée, lui, Prométhée, c'est celui qui a voulu ravir aux dieux une partie de leur savoir. C'était un savoir technologique, lui. Il a ravi le feu qui a permis de transformer la vie matérielle des hommes. Ça ne s'adresse pas à la musique. Je ne pense pas que Prométhée soit un musicien. Ou alors peut-être un luthier. Peut-être c'est lui qui ferait les instruments.
En tout cas, pour beaucoup, la musique est là pour divertir, éventuellement pour édifier. Vous nous rappelez, François-Bernard Mache, que le mythe dit tout le contraire. Le chant des sirènes ou la lyre d'Apollon peuvent entraîner la mort. Celle d'Ulysse qui, par sa ruse, l'évite, mais celle de Marsyas qui ne l'évite pas. Nous comprenons pourquoi, et il faut relire Platon, la musique est un art extrêmement surveillé. Musique, mythe ou les dauphins d'Arion est un ouvrage épuisé. On retrouve une partie de la substance de ce livre dans Musique au singulier chez Odile Jacob. Sur le bateau d'Ulysse, une série proposée par Gérard Gromer, aujourd'hui sauter parmi les dauphins avec François-Bernard Marche. Prise de son Yves Baudry, réalisation Sylvie Migaud.